sur le fruit de l'esprit. Je voudrais donner trois citations avant d'aller un peu plus loin. Je vous les nomme comme ça. L'apôtre Paul a dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». On a vraiment besoin. La loi a été accomplie par Christ. Donc il y a des choses, il y a des règles. La vie chrétienne a des règles, oui, c'est vrai. Mais nous savons que la lettre sortie de son contexte peut tuer. Mais nous savons que l'Esprit de Dieu, non, revient à la première, sinon ils ne vont pas comprendre. Voilà, donc la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et aussi Jésus, donc là c'est une mise en garde de Paul, on sait qu'il faut bien utiliser la parole de Dieu et à bon escient. Jésus a dit aussi dans Luc 6:63, l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont... Esprit et vie. Alors l'éclairage ne peut être donné que par le Saint-Esprit. C'est une capacité venant de Jésus. Nous n'avons pas cette capacité. Nous prions que le Saint-Esprit agisse et toujours au milieu de nous, dans nos vies, dans les différents besoins. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Une autre citation, je vous nomme. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on le sait bien, on a vraiment besoin de la présence de Jésus pour ouvrir des capacités, nous rendre capables, vivre de sa nature pour que sa vie aussi se manifeste. Donc, sans Jésus, il n'y a rien de bon. Si nous avons goûté dans la vie, nous avons pu voir, découvrir que sans Jésus, il n'y avait pas ce qui était favorable et ce qui nous était bon. Et n'est-ce pas qu'on reconnaît, l'arbre à son fruit. Voilà. Donc, il y a deux choses importantes. Tu restes toujours sur la même diapo. Voilà, deux choses importantes à garder en vue. Il y a le vigneron, donc le père. Appelé le vigneron qui, il émonde sa vigne afin qu'elle porte du fruit, encore plus de fruits, beaucoup plus de fruits. Et donc, la deuxième chose, donc il y a le vigneron, Jésus le cep, qui transmet la vie. Si on lui permet, on lui donne la possibilité de faire les choses comme lui le veut, comme lui l'entend. Et ce qu'il donne nous sera profitable si le Père peut faire son œuvre et si Jésus aussi transmet la vie. Donc, vous comprenez, sur ces choses élémentaires et basiques, c'est vrai, que nous connaissons bien, nous savons aussi que suite à une bonne relation avec Jésus, c'est-à-dire par la prière, la parole, par un quotidien, par la vie de l'Église, ça formera un fruit agréable à la vue, mais aussi bon en le goûtant. C'est pas dégoûtant, j'ai dit, en le goûtant. Ça veut dire que c'est bon. Parce que vous avez peut-être vu qu'il y a parfois des fruits qui en promettent. Ils sont beaux en apparence, mais tellement fades. Vous avez acheté un melon, puis le couper, le manger, vous dites, c'était pas encore le moment, C'était pas encore comme on aime bien le manger. Donc on force pas la nature à nous donner les choses. Et avec Jésus, c'est pareil. On peut pas forcer Jésus à nous donner les choses si on n'a pas cette relation avec lui qui découle et qui permet cette abondance et ce privilège, n'est-ce pas ? On peut pas forcer la main de Jésus si nous sommes pas en relation, si nous demeurons pas en lui, etc. Nous savons que c'est nécessaire. On a besoin, comme venant au Seigneur, comme dans un premier jour, on a besoin de cette relation pour venir s'abandonner. Et puis on va le voir que lui va abandonner tout son amour, va déverser sa grâce au fur et à mesure. Donc on a vraiment besoin de Jésus avant tout. Et dans cette relation-là, avec Jésus, ça développera un bon fruit. Tellement fortifié en Jésus et par Jésus, cela produira un fruit qui sera bon. Donc, on dit que pour être en bonne santé physique, il faut manger au moins... Ah, ça, vous l'avez retenu. Bon, espérez qu'ils retiennent ce qui vient, parce qu'il y en a plus. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a manger cinq fruits et légumes, voilà. Dieu dit, lui, il a neuf vertus par jour. Hein, le fruit de l'esprit, voilà, selon ses composantes, ça peut nous donner de voir neuf qualités, neuf vertus, neuf parfums, neuf saveurs. Voyez, on peut, comment on va les définir, hein, donc ça nous donne toute cette réalité. Puis on verra un peu plus loin tout à l'heure. Mais en fait, j'aurais voulu vous passer une autre diapo. Là, tu peux y aller, merci. Voilà, parce que vous avez certainement vu ce livre-là, hein, Le fruit de l'esprit, les éditions Viens et Vois, hein, je fais de la pub, mais Donald G., hein, voilà, un enseignant hein, dans les périodes de réveil, il a donné une citation qui m'a interpellé il y a déjà pas mal de temps. C'est qu'en fait, il dit si pendant les générations, donc là on pense, faut se mettre à l'époque, hein, quand il parle, c'est la période du réveil. Donc il dit si pendant des générations, on a beaucoup donné l'importance aux fruits, donc la vie chrétienne avec son caractère en tant que disciple chrétien, l'authenticité, la vérité, tout ça, vous voyez, il dit au détriment des dons. On n'avait pas forcément pensé à ça. Mais il dit, le peuple de Pentecôte doit ne pas commettre l'erreur inverse. Ça veut dire que on mettrait, et je pense, ça c'est moi qui le pense, et je pense qu'aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur le don et les dons, dons de l'esprit, les capacités, selon ce que Dieu peut donner, etc. Mais parfois peut-être au détriment du fruit. Hein. Donc à vous dire, cela est important, et il y a peut-être un bon ordre où tout au moins à dire que les deux ont leur importance, que ce soit le fruit ou que ce soit les dons. Hein, c'est parce qu'il est dit le fruit qu'il n'y en a qu'un. Non, non, il y a neuf variantes et neuf aspects, hein, on pourrait dire. Mais on regarde, regardons quand même la volonté de Dieu, le bon ordre. Le début, c'est, on pourrait comprendre le fruit, la vie chrétienne dans son authenticité, dans les éléments desquels on puise en Jésus. Et puis on pourrait dire aussi ensuite, dans la vie de l'esprit, il y a le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit qui nous remplit de sa plénitude, de parler en langue et d'être rempli de Dieu et de sa plénitude. Et puis on pourrait voir et apercevoir les dons. Parce que c'est vrai que si Dieu nous donnait des dons sans qu'on ait des capacités ou des qualités pour les vivre, bien vite, on va arriver à peau de chagrin. Hein. Donc, il me semble qu'on a aussi besoin de voir ou de revoir cela avec toute son importance. Donc, marcher et vivre en Christ permettra, hein, comme disait notre sœur tout à l'heure, c'est vrai que voilà, j'ai été crucifié avec Christ. Hein, si je vis, c'est la vie de Jésus, hein, la vie d'en haut qui se manifeste en nous. Amen. Donc, merci Seigneur. Alors, on va devoir revenir, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet et autour de table pour travailler aussi. Mais ce soir, je voulais poser un peu les bases introductives. Une autre diapo, s'il te plaît. C'est que en fait, il y a l'introduction, parce que si Paul parle du fruit de l'esprit, il faut réfléchir et regarder un petit peu ce que ça signifie. On pourrait dire en postulat, c'est redécouvrir aussi les intentions de l'apôtre Paul, hein, les intentions de l'apôtre Paul qui sont vraiment importantes pour chacune de nos vies. Si Paul d'abord parle aux Galates, c'est qu'il les chérissait de l'amour du Seigneur. Donc, ce n'est pas une volonté de les matraquer ou je ne sais ce qu'on pourrait en dire, mais il connaissait leurs besoins, leur fragilité, et il voudra répondre à leurs besoins, les nourrir en Christ par cet épître. Et on pourrait dire aussi, d'une certaine manière, on reviendra un peu sur ça, sur un repas équilibré et complet. Donc, ils avaient besoin de se nourrir pour se développer, ils avaient besoin d'arriver, de croître dans la connaissance, dans l'expérience, dans la relation en Christ. Et c'est vrai que un repas équilibré, et c'est pas seulement manger un petit peu à table, mais c'est aller jusqu'au dessert, on pourrait dire, jusqu'au fruit à la fin. Et comme il termine son épître au chapitre 5, nous terminons l'épître. Et sa clôture, c'est par le fruit. Voyez-vous, il est bien éduqué, lui, hein. Il termine par le dessert. Donc c'est bien. Si on commence par le dessert, ça peut être possible. Mais bon, nous comprenons qu'il y a la nécessité d'avancer, il y a des pas à faire, il y a des découvertes, il y a une vie à avoir. Et le but, hein, ce n'est pas de terminer par une indigestion. Voilà. Ça serait le dernier chapitre, ça serait terminé par le fruit, et puis là, c'est indigeste, et puis ça passe pas. Hein. Donc, dans l'épître de Paul aux Galates, il y avait quand même deux textes, chapitre 1er, verset 6 à 8, et chapitre 3, verset 1. Je donne que des citations. C'est qu'en fait, il y avait le risque de les voir se détourner rapidement. À vous de me dire si ce risque, il existe toujours. Hein ? Donc, c'est pour ça qu'il leur adresse une parole et puis cet épître. Donc, Dieu a une parole pour nous et nous aussi, au jour d'aujourd'hui, de nous garder dans sa vérité, dans sa liberté. Hein. Donc, il dit, et les propos du fruit, parce qu'il faut bien situer, je prends le temps de vous donner des éléments, mais quand on va relire le texte, c'est qu'il faut quand même se dire qu'il y a l'exhortation de Paul qui les exhorte à ne pas finir par la chair, mais finir par l'esprit. Finir chapitre 5, ou finir par le fruit, mais la recommandation, c'est pas finir par la chair. Ils ont bien commencé en marchant par l'esprit, mais finissez pas par la chair. Et ça, c'est important pour nous tous, n'est-ce pas ? Donc les Galates, il faut se dire qu'ils étaient des personnes faciles à convaincre. Les faux docteurs et légalistes de Judée viennent dire aux autres églises qu'il fallait être circoncis et observer la loi pour être sauvé. Donc, d'où la raison de cet épître, pour reconstruire et repositionner la grâce, pour les aider à être libres de la loi, mais de vivre pleinement la plénitude de la grâce. Les Galates, nouvellement si convertis, devaient être en garde, parce qu'ils croyaient justement à ces hérésies, à ces éléments qui pouvaient les induire en erreur et les amener à se perdre. Donc, et malheureusement, risquaient de finir sous le régime de la loi. Imaginez, si on doit être sous le régime de la loi, il faut pratiquer les 10 commandements. Et 613 hein, aussi, parce qu'il y en a 613 derrière. Ça veut dire que voilà, si tu transgresses un seul de tous, tu es coupable de tous. Donc la finalité est terrible. Hein. Donc on peut s'employer à beaucoup de choses, mais si on manque l'essentiel, donc que Dieu nous fasse grâce. Tu as une autre diapo, s'il te plaît, je pense à la suite. Donc c'est aussi pour nous montrer que le diable est venu. Non, c'est celle avec Adam et Ève. C'est peut-être après, alors. Désolé. En fait, le diable est venu pour tenter Adam et Ève, leur présentant quoi ? Le fruit. Mais le fruit défendu. C'est pas le fruit de l'esprit, là. Hein ? Le fruit défendu. Il fallait pas qu'ils mangent ce fruit. Et donc, nous savons que ça, c'est toute la désobéissance. Et de manger ce fruit-là les a conduits à la mort. Hein, la mort spirituelle. Donc, en Jésus, maintenant, c'est que nous avons Jésus qui a consommé la mort pour nous afin de nous donner de vivre en lui et en Christ. C'était l'autre diapo, hein, mais ce n'est pas grave. Donc, il dit, Dieu avait dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Hein. Donc, imaginez, vous êtes invité quelque part, chez quelqu'un, il y a un beau repas. Vraiment, c'est super invitation, super repas. Tout a été fait aux petits oignons, on pourrait dire. Et puis, vous finissez le repas par un mauvais fruit. Oh, mais ça, on ne pouvait pas savoir. Hein ? Autant que le plat, vous l'avez préparé, mais finir par un mauvais fruit qui laisse un goût amer, telle la mort spirituelle. Et si vous comparez Genèse 3 et Galates 5, 21, en fait, c'est aussi des notions de voir la similitude, le parallèle qu'il y a entre Adam et Ève, et puis aussi les Galates à cette époque-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est Jésus, en fait, nous enseigne par la bouche de Paul, et il dit « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau vous mettre sous le joug » de la servitude, Galates 5, verset 1er. Donc c'est important. Et donc si je vous parle de l'introduction de l'épître aux Galates, si on doit prendre l'épître de Paul aux Galates et la découper, comme on découpe un fruit, eh ben c'est de dire, on va découper, c'est que tout d'abord, le chapitre 1er, chapitre 2, nous parle eh bien, de Paul, l'apôtre de la liberté. Donc il dit, vous ne laissez pas mettre sous le joug de la loi, du péché, etc. Donc c'est l'apôtre de la liberté. Son ministère, son travail, c'est pour renvoyer libres les captifs. Alléluia. Et c'est merveilleux. Et encore dans ces chapitres, ces six chapitres de Galates, c'est que chapitre 3 et 4, c'est un évangile de liberté. Et donc là, il rappelle et remet vraiment chaque chose à sa place et pourrait le comparer, le regarder. Et puis, chapitre 5 et 6, c'est une vie de liberté, d'où le fruit de l'esprit qui nous conduit dans la liberté. Amen. Bon, j'espère que vous aimez les fruits. Hein. Alors, on va lire un autre texte. Là, tu vas voir la diapo de tout à l'heure, Matthieu 13. Voilà. Voilà, on va lire ce texte ensemble. Alors, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Donc c'est très solennel aussi pour nous de nous rappeler cela. Hein, c'est que on a vraiment des paroles, et ça me rappelle quand le peuple est sorti d'Égypte et devait atteindre le pays de la promesse. Il y avait 12 espions. Il y en a 10, ils ont dit « Non, c'est pas possible, on va pas là-bas, il y a des géants, on va mourir, et c'est pas possible. » Et il y en avait 2 seulement. Comment ils s'appelaient ? Caleb et Josué. Hein ? Donc, ils ont dit « Voilà, on va y aller et Dieu va nous faire grâce. » Et puis, quand ils sont allés là-bas, ils ont ramené sur une perche, qu'est-ce qu'ils ont ramené ? Du raisin. Mais ce n'est pas le raisin de Leclerc. Hein. Ils ont ramené une grappe de raisin, mais énorme. Et vous n'en avez même pas en Land Dog. Vous n'avez pas du raisin comme ça ici. Hein. Et là, c'était un raisin et là, de la vallée d'Eshcol qui signifie grappe. Donc déjà, il y avait là cette réalité que Dieu prévoyait dans cette vallée. Vous rendez compte, la vallée, c'est symbole de quoi ? D'épreuves, de souffrances, de difficultés. Et que dans tout cela, Dieu permettait qu'il y ait le fruit qui était là, mais dans des proportions qui dépassent l'entendement. Et c'est ça la vie avec Christ. C'est ça la vie avec notre Seigneur. Et c'est ce texte, vous le retrouverez dans Nombre 13, versets 23 et 24. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur est capable de faire. Une grappe de raisin, ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades, des figues, et on donna à ce lieu la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Donc, merci Seigneur. Voilà pour de telles choses qui peuvent aussi nous enseigner au sein de nos difficultés, nos souffrances, nos épreuves, les moments difficiles qui sont à surmonter. Le Seigneur est capable, dans nos vallées, de nous donner d'être secourus par son esprit, par le fruit de l'esprit. Amen. Allez, on va lire maintenant Galates. Hein, j'ai introduit, mais excusez-moi, hein, je prends un peu de temps pour introduire un peu tout ça, pour qu'on comprenne un peu le sujet ou qu'on révise le sujet. On va prendre ces diapos du texte de Galates 5, versets 13 à 26, s'il te plaît. Voilà, Alors on va faire une lecture un peu conséquente, mais c'est pour se remettre dedans. Frères, vous avez été appelés à la liberté, hein, dont on parlait tout à l'heure. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit ou selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Heureusement qu'il a abrégé, parce que déjà la liste était déjà pas mal. Donc, il dit aussi, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, alors vous voyez, le mais vient contrebalancer un peu tout ça, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Puis là, on va garder en évidence le verset qui ressort. Donc, c'est notre verset clé sur lequel on aura le temps de revenir. Alors, les 9 vertus, on pourrait dire tout au moins, qui nous sont rappelées dans l'énoncé de l'apôtre de ce fruit. Mais en réalité, en étudiant, en regardant un peu, j'ai retrouvé, mais je sais pas combien de temps que ça dure chez vous une étude, mais il y a des textes en fait qui parlent aussi des différentes vertus qu'il y a dans la vie chrétienne. Les vertus, les 9 vertus, facettes ou comme vous voulez, par le fruit de l'esprit, c'est déjà beau de voir ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Moi, j'ai noté, alors excusez-moi si on va lire des textes, mais j'ai noté 7 textes qui parlent de vertus. Aujourd'hui, on est dans une société, les vertus, on n'en a pas, ou très peu. Et donc, dès qu'il y en a un qui sort du lot, on se dit « Ah, celui-là, il est peut-être chrétien, en fait ». Et merci Seigneur, tant mieux. Mais si vous regardez quelques textes, alors il y a le 1 Corinthiens 13, je ne vous l'ai pas mis, parce que c'est pareil, l'amour par excellence, l'amour au-dessus de tout. Et ben c'est des textes qui sont là. Et puis en fait, ces textes-là, avec l'épître de Paul aux Galates, il y a une corrélation entre eux. Ça veut dire, corrélation, c'est qu'il y a du lien. Et par le rapport de ma relation avec Jésus, amènera des choses. Voyez-vous ? Ma relation avec Christ, je n'ai pas besoin de forcer, comme je disais tout à l'heure, la nature, forcer les choses pour que ça apparaisse. On n'a pas besoin de se forcer pour sourire, par exemple, parce que le fruit de l'esprit nous donne la joie. Voyez ? On n'a pas besoin de forcer ou se forcer pour aimer, parce que le fruit de l'esprit donne l'amour. Voyez-vous ? Autant de choses que nous pouvons voir. Alors, on va faire, excusez-moi, quelques lectures. Philippiens chapitre 4 verset 8. Heureusement qu'on a tout préparé d'avance. Voilà. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est beau, ce texte-là. Donc on voit qu'il y a un entier, tout. Voilà, tout. Et c'est beau. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Tu avais d'autres versets peut-être ? De patience, oui. Supportez-vous, ah oui, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. On va un peu plus loin dans Jacques 3, verset 14. Voilà. Et si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Voilà. Et 1 Timothée 4, 12, s'il te plaît. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige point le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Vous voyez, là, il y a une corrélation entre les vertus et le don. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Donc, vous voyez, quelque part, quand on parle de vertu, la Bible n'est pas prise aux démunis, hein, mais elle nous enseigne et nous montre que le Seigneur cherche donner du lien à tout cela. La corrélation, c'est du latin correlatio, ça parle de relation. Donc ma relation avec Christ permet au Saint-Esprit de déposer en nous de ses vertus. Hein? Donc merci Seigneur, c'est bon. Comment le fruit peut-il se rendre évident dans ma vie? Est-ce par mes actions, mes efforts? Nous savons que nous ne pouvons pas nous changer, on ne peut pas changer la couleur du léopard, c'est ça hein, le texte. Hein. Voilà, on peut rien faire. Hein. Mais seul Jésus nous change. Et puis, inscrit le caractère de Christ en nous. Hein. C'est ça aussi, parler du fruit de l'esprit, vous verrez, ça parle du caractère de Christ dans nos vies. Hein, nous avons tous un caractère. Parfois, c'est compliqué. Hein. Mais bon, pas ici. Hein. Mais le fruit de l'esprit, c'est le bénéfice. Eh bien, que produit la liberté de Christ en nous, le caractère de Jésus-Christ en nous, sa nature divine aussi en nous. Hein ? Merci Seigneur. Donc, c'est un peu, brossant un peu ces éléments, c'est quand même le résultat de Jean 15, le cep et sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, disait Jésus. Hein ? Et comme il était dit aussi à Galates, demeurez. Donc, ce verbe est fort. Parce que c'est pas seulement demeurer, je viens à l'église, parce que on vient, mais demeurer en Christ, dans ce quotidien, dans cette relation, nous permet de voir ce correlatio qui signifie cette relation qui engendre énormément dans nos vies. Nous sommes quand même privilégiés de tout cela, n'est-ce pas, hein? Donc si nous ne demeurons pas dans le Seigneur, soudés, attachés, on pourrait dire, à lui, enracinés, cimentés en lui, nous ne pourrons pas porter du fruit, hein? Donc notre question pour nous, voilà, demeurons-nous attachés au Seigneur, hein? Matthieu 7,15, tout bon arbre porte de bons fruits, hein, produisez du fruit digne de la repentance. Donc il y a quelque chose qui émerge. Donc tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, retranché. Imaginez, c'est fort quand même. Donc je pense que le Seigneur est celui qui vient voir. Et il vient aussi patiemment et il veut nous aider à vivre un petit peu eh bien, les choses qu'il a prévues dans sa fidélité. Alors pour terminer, on va passer au dessert. Hein. Cette autre diapo, s'il te plaît. Donc de ces 9 vertus, on peut découper cela en 3 groupes. Ça sera un découpage pratique qui précise des éléments sur tout d'abord notre vie avec Dieu. La priorité, c'est notre vie avec Dieu. Hein. Il est question du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et puis au fond, il y a un autre groupe, c'est nos relations avec les autres. Là, on doit faire preuve de patience, de bonté, de bienveillance, n'est-ce pas, hein? Et un autre groupe qui est aussi notre discipline de vie. Parce que la vie chrétienne est aussi une vie qui se règle d'après la volonté de Dieu, la foi ou la fidélité, douceur, tempérance ou maîtrise de soi, voyez-vous. Et donc ça nous donne ces 3 groupes-là importants qui ponctuent d'abord notre relation avec Dieu. Il est bon de vivre le fruit de l'esprit parce qu'on va s'en porter mieux, on va vivre de bonnes choses. Mais vous savez, comme moi, on ne peut pas vivre que notre vie connectée qu'au ciel parce que nous sommes sur la terre. Ah, mais lui, il m'a regardé de travers, tellement de travers que ça m'a noué la gorge. Mais on a notre relation avec les autres et notre discipline de vie. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que dans tout cela, le fruit est indispensable pour le bon témoignage chrétien. Hein, il est question de témoignage. Si vous portez du fruit, donc ça sera vu, ça se sera. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Allez, on termine. Une autre diapo. Vous allez peut-être l'aimer, celle-là. Si c'est la bonne. Voilà. Nous sommes tous invités à sa table. C'est beau, hein ? Nous sommes tous invités à la table du Seigneur. Et à sa table, il y a tout ce qu'il faut. On pourrait dire que c'est la restauration divine. Hein, passant du fruit défendu au fruit du Saint-Esprit. Hein. Donc, merci Seigneur. Que faut-il faire avant de manger un fruit ? Le laver, mais avant de le laver, faut aller le chercher, faut aller le cueillir. Hein. Il est temps de récolter les fruits. Amen. Voilà, donc, il est temps de récolter les fruits, et puis avant de le manger, on réalise le laver, voilà. Et puis, comme il est dit dans Romains 1, 11, je vous cite seulement, hein, parce que je vous ai fait travailler là ce soir. On va finir sur une bonne note. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, disait l'homme de Dieu, afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu, de vous par la foi qui nous est commune à vous et moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Donc Paul voulait recueillir des fruits, il voulait les voir, il voulait palper, il voulait voir, hein, donc à la table du Seigneur, il voulait venir chercher de ces fruits. Hein. Et dans l'origine de ce mot « carpos », c'est le fruit des arbres, hein, des vignes, des champs, etc. Mais c'est aussi le fruit de la vie, hein, quand on a un enfant, c'est voilà, c'est aussi dans cette origine du mot. Et puis, ça signifie aussi récolter le fruit, moissonner la récolte dans la vie éternelle pour ceux qui auront travaillé à leur âme, donc pour cette récolte. Donc, au temps et à l'aboutissement de toute chose. Donc, que faut-il faire? Eh bien, le Seigneur vient aussi pour récolter les fruits. Merci Seigneur. Amen. Romains 6, 19 nous dit qu'on est des enfants de lumière, esclaves de Dieu et non plus du monde, vivant la sainteté et la sanctification. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 19 à 23. Et donc, récolter les fruits pour manger, ben, le Seigneur désire aussi nous trouver comme des disciples qui deviennent matures, se développant abondamment et vivant du fruit de sa justice. Donc, c'est, voilà, ça grandit. C'est une chose qui compte aux yeux de Dieu. Hein. Et dans Philippiens 1, 8 à 11, il est dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour ces éléments qu'on peut voir. Et disant que je termine, ben c'est est-ce que nous recherchons un repas équilibré et complet. Nous en avons besoin. Et en Christ, et dans tout ce qu'il nous a donné d'avance, nous avons là tout ce qui convient. Hein. Nous avons dans Hébreux 5, 12, le lait de sa parole. Hébreux 5, 14, nous avons aussi la nourriture solide. Nous avons aussi l'eau, si quelqu'un a soif. Jean 7, 37. Et pour terminer par le fruit, Galates 5, 23. Et le Seigneur, il dit, dans Pierre 1, 2, verset 3, il dit, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Donc, on s'est exercé à goûter. Hein, c'est pas seulement goûter, mais c'est de pouvoir se nourrir. Hein. Combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous avez goûté le don céleste, vous avez eu part au Saint-Esprit. Hébreux 6, 4, vous avez goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Hébreux 6, verset 5. Donc on s'aperçoit qu'il a vraiment au menu, à sa table, en sa présence, il a tout ce qui convient pour faire de nous ses disciples qui se préparent, qui sont nourris hein, de sa saine parole pour nous fortifier et nous développer dans sa stature, dans sa présence, dans sa volonté, afin que nous soyons vraiment bénis par lui. Amen. Alors que Dieu nous donne encore de ce fruit de l'Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons te mettre à l'honneur de ce que tu nourris nos vies, tu nous conduis et nous gardes, et tu nous mènes, oui Seigneur, à demeurer en toi. Et combien nous voulons peser cette réalité, nous voulons peser cette nécessité pour nous. Et Seigneur, merci de tes œuvres en nous, au milieu de nous. Nous voulons que ce caractère de Christ puisse être formé en nous, que nous dépendions pas de nous-mêmes, de nos travers, de nos difficultés, des œuvres de la chair, mais nous dépendions des œuvres de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Seigneur, attire notre regard comme un nouveau regard sur ces réalités d'en haut. Et Seigneur, viens nous faire grâce et viens nous conduire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, dans cette soirée, te bénissons. bénissons de ton plan à notre endroit. Et Seigneur, merci pour, oui, Seigneur, ta parole vivante qui produit son effet, Seigneur, dans nos vies. Nous te rendons grâce et nous te prions, Seigneur, de nous secourir, de peut-être dans nos vallées, dans nos difficultés, dans nos besoins, dans nos détresses, de voir encore de ta plénitude. Oui, Seigneur, nous abreuver, nous renouveler, nous conduire encore plus loin. Merci, Seigneur, pour tes vertus. Merci pour la manifestation de Dieu dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.